à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.
Chers auditeurs, joie de vous retrouver, paix de Jésus-Christ en vous. Après mon voyage en famille, en France, à Paris, à Besançon d'abord, auprès de mon papa Robert et de ma petite maman Pierrette. Quel bonheur de surprendre maman qui a 87 ans et qui en paraît 60. Caresser la joue de papa en le faisant manger chaque soir. Un bonheur simple et profond. Papa, atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 6 ans déjà, est toujours au lit ou parfois assis sur une chaise. J'ai pu lui exprimer tout mon amour en le remerciant d'une part d'avoir servi la France dans l'armée, en le félicitant pour ses nombreuses médailles militaires, et j'ai pu le remercier aussi d'autre part de nous avoir aimés à sa façon, mais de nous avoir aimés. Je lui ai même dit qu'au Liban, lorsque j'ai un peu froid intérieurement, je puise en son exemple de grande patience et sérénité dans l'épreuve cruelle de santé qu'il traverse. Alors, j'ai bien cru voir deux larmes couler sur ses petites joues roses. Seul l'amour compte. Et c'est toute une provision d'amour que j'ai faite dans ma famille, parmi mes nombreux amis, qui défilaient à la maison pour me manifester leur amitié et essayer de comprendre ce qui se passe au Liban et dans notre région moyenne-orientale. Et ces temps-ci, je reçois du Seigneur, tout au fond de mon cœur, la présence de notre père Abraham, cet Araméen errant, père des croyants, chevalier de la foi, champion du monothéisme. Chaque croyant juif, chrétien ou musulman fait sien les mots de Paul Claudel. Les fils d'Abraham, c'est nous. Et c'est ensemble que nous cherchons à promouvoir pour tous les hommes la justice sociale, la paix, la liberté. Dans ce Moyen-Orient, si divisé, à nouveau, sans cesse menacé, trop déchiré par l'inimitié de ses peuples, il semble plus que jamais opportun d'unir dans une ligne fraternelle et pacifique tous ceux qui, du moins, partagent la foi d'Abraham et se considèrent comme ses fils, héritiers de la promesse que Dieu lui fit. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre. Genèse 22. Sur cette base commune, il devrait être possible d'unir tous ceux qui considèrent Abraham, le croyant, comme l'ancêtre de leur propre religion, voire de leur lignage. Partageant sa foi en Dieu, mais aussi sa bienveillance envers tous les hommes, sa miséricorde et son hospitalité généreuse. C'est pourquoi il est urgent que tous les fils d'Abraham travaillent ensemble à construire un monde fraternel. Ce serait là le plus beau témoignage qu'ils puissent donner aux autres hommes de la sincérité, de la vérité, de leur foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce serait en outre la meilleure réponse à ceux qui dénoncent leur religion comme un opium du peuple. Que la fraternité de tous ceux qui partagent la foi d'Abraham le croyant, apparaissent au cœur des hommes d'aujourd'hui comme un ferment de paix et d'entraide, capable de susciter l'enthousiasme et la générosité au service de toutes les causes vraiment humaines. N'est-ce pas là le témoignage que le monde attend des fils d'Abraham et le plus convaincant? Prions pour que la réconciliation entre fils d'Abraham soit effective et que le monde soit libéré des méfaits de la haine, des violences fanatiques, des orgueils de la race et du sang, en lui révélant les sources authentiques et divines d'un humanisme fraternel. Mes amis libanais, je crois que l'éducation ici joue un rôle essentiel. Permettez-moi de vous relater une expérience de vie celle du 16 décembre 2008, lorsque j'arrive à l'aéroport de Beyrouth pour partir en France. Là, un homme très grand et barbu se dirige vers nous et nous interpelle. « Vous êtes française ?» Et il était accompagné d'un petit garçon très beau, également d'environ 6 ans. Un enfant bien éduqué et très poli. Je le félicite et son papa me répond « Écoutez, ma sœur, comme il est bien éduqué !» Et alors, ce petit gamin dit d'une voix forte et assurée « On va raser Israël !» Le papa de me dire « Vous voyez comme nos enfants sont bien formés !» Vraiment, nous fûmes terrassés et nous avons préféré garder le silence en prenant congé de lui. Cette situation montre à quel point certains enfants libanais sont éduqués à la haine. Et on peut transposer cela dans tout milieu fanatique. La haine engendre la haine. Et la violence ne résout rien du tout. Au contraire, elle exauce ceux qui rêvent de mourir martyrs dans le sang. Et c'est cette dynamique qu'il faut transformer. Aller à la cause de cette violence, aux racines. L'histoire de tout homme est sacrée et doit devenir le lieu de cette transformation de l'animal haineux en être humain fraternel, le lieu de l'accomplissement humano-divin, lent et progressif, mais accomplissement sûr et certain. Le divin n'est-il pas justement l'accomplissement parfait de l'humain ? Si Dieu a créé l'homme et l'appelle, c'est pour son bonheur, pas pour autre chose. Cette merveilleuse certitude ne fera que s'approfondir au long de l'histoire biblique, faisant dire au prophète Jérémie, je le cite, « Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit le Seigneur, projets de prospérité et non de malheur. » Je vais vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Le projet que Dieu a eu avec Abraham, notre père, est au bénéfice de l'humanité tout entière. Ce bonheur promis n'est pas pour lui seul. Dans la Bible, jamais aucune vocation, aucun appel n'est pour l'intérêt égoïste de celui qui est appelé. Le projet de bonheur de Dieu passe par Abraham, mais le dépasse et il le déborde. Il concerne toute l'humanité. En toi, à travers toi, seront bénies toutes les familles de la terre, dit le Seigneur. Abraham et ses descendants sont le peuple élu choisi par Dieu, dans le mystère certes impénétrable de sa volonté, mais c'est au bénéfice de tous les hommes. Cette deuxième dimension de la promesse faite à Abraham ne fut certes pas immédiatement saisie par Abraham lui-même. Ce sera le résultat de la méditation ultérieure de ses descendants. Et vous voyez, chers amis libanais, ma culture et mon éducation française m'ont permis de rencontrer la personne humaine dans le prochain sur ma route et de l'apprécier dans sa différence. Laissez l'autre être vraiment autre. C'est toute une école et c'est l'école de l'amour véritable et de la paix. Amour véritable et paix incarnée en l'homme parfait, Jésus de Nazareth, fils de Dieu et Dieu. Un maître intérieur unique, le seul à se livrer au mal pour libérer l'amour. Le sauveur, car on le voit partout, c'est le cœur de l'homme qui est malade et qu'il faut sauver. Un mot prononcé par les dirigeants de cette terre d'Israël, Jésus est le Messie, et leur dynamique de mort deviendra dynamique de vie. La clé unique de la paix au Proche-Orient est celle-là, la reconnaissance de Jésus comme Messie. Il n'y a rien de caché en Dieu, rien de secret pour ceux qui aiment Dieu. Dieu se révèle à celui qu'il aime réellement. Il donne son amour à celui qui est vrai et sincère en raison du fait qu'il doit régner dans chaque cœur par son amour. Si Dieu est en toi, tu ne peux pas ne pas sentir son amour, car il est amour. Quand deux personnes se mettent en harmonie au nom du Dieu unique, elles deviennent ensemble témoins d'une présence et d'une paternité qui rayonnent au bénéfice de tous. Dès lors, pourquoi ne pas se laisser séduire, sans fusion ni confusion, comme le dit le père Daniel Fouché, par une communion possible, déjà réalisée dans le cœur de Dieu? Pourquoi ne pas collaborer dans la réciprocité et le respect de chaque liberté à cette fraternité universelle enfin retrouvée, mais qui reste toujours à bâtir? À chacun de nous de jouer maintenant son rôle, sa mission, et je vous répète toujours, la paix dans le monde, la paix au Liban dépend de la paix de chacun de nous. Nous devons tous, chrétiens, juifs et musulmans, être convaincus de la bonté gratuite de Dieu, qui est l'unique source de salut. Et alors, chacun, rejetant toute suffisance orgueilleuse, car c'est là le péché fondamental, se situera d'abord par rapport à cette paternité universelle, dans une sympathie profonde pour l'autre, car c'est la charité qui sauve, celle de Dieu se manifestant à travers le cœur des hommes. Dans cette perspective, tous les hommes sont sauvés. Ensuite, par rapport au plan divin et à son déroulement, que chacun de nous cherche honnêtement dans la direction d'un développement toujours plus grand de sa foi, en conformité avec ce plan de Dieu, et il finira bien par trouver, même s'il meurt en chemin, avant d'avoir tout découvert. L'important, c'est de se mettre en route, les yeux ouverts, l'oreille à l'écoute, le cœur aux aguets. Pour reconnaître la volonté salvifique universelle de Dieu et la générosité de ses intentions envers tous les hommes, il faut changer notre cœur et le rendre semblable au sien et transformer en conséquence nos mauvais raisonnements. Chacun de nous doit être le levain minuscule dans la pâte humaine, une petite part dont Jésus est la totalité et qui soulève la pâte entière, à condition de rejeter le ferment de malice et de méchanceté. Et ainsi, purifiés du vieil homme, nous devenons une pâte nouvelle et différenciée. Je cite, « Si la racine est sainte, les branches le seront aussi. » Romains 11, 16. En tant que chrétiens, ajustons notre regard et notre cœur à cette bonté constante et inconditionnelle de Dieu à l'égard de tous les hommes et surtout des fils d'Abraham. Prions.
Tu reconnus. Il a créé les cieux pour que vive la terre. Il a donné son cœur et fait de nous des frères. Yeshua. S'est livré au mal pour libérer l'amour en te tendant ses bras, supplie à pleine voix, Abana. Son esprit pour être comme lui, Inch'Allah.
Alors, nous pouvons, par une conversion radicale, refaire alliance avec nos frères aînés. Lorsque nous enlèverons leurs péchés, je veux dire les péchés que nous avons sur le cœur et que nous projetons abusivement sur eux, comme l'œil encombré d'une poutre voit la paille dans l'œil de l'autre, c'est-à-dire l'ombre projetée de son propre péché à l'égard d'autrui. S'il n'existe plus d'obstacle à la fraternité retrouvée, il ne reste plus que le soleil de Dieu qui illumine notre cœur et notre regard et rayonne sur tous ceux que Dieu aime, sur tous les fils d'Abraham, c'est-à-dire sur tous les hommes. Dans une telle atmosphère de recherche, on ne joue plus la jalousie possessive, mais l'émulation fraternelle. On ne pose plus de questions telles « qui est le premier ?»« qui est le plus grand ?»« qui est le patron ?»« qui est le chef ?» Car nous avons compris que nous sommes tous les enfants d'un même père, donc que nous sommes tous des frères. Chacun a plutôt envie de s'effacer pour valoriser l'autre, de rayonner en le mettant en lumière, et devenir serviteur, le dernier, pour exalter l'autre, surtout s'il est méprisé et déconsidéré. Je dirais même que si cet autre est annihilé ou anéanti, chacun a envie de mourir pour le sauver. Nous sommes les membres les uns des autres. Un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Et si le potier, dans sa liberté, est maître de son argile, a fait de la même pâte tel vase d'usage noble et tel autre d'usage vulgaire, a fabriqué des vases d'or et d'argent, d'autres de bois et d'argile, je dois compenser logiquement ce qui manque à l'un en lui accordant un supplément d'honneur, de considération, de respect et de tendresse. Je cite saint Paul qui reconnaît tout cela. Les membres du corps qui nous paraissent les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous tenons pour les moins honorables, c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons. Ceux qui sont décents n'ont pas besoin de ces égards. Mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un commun souci les uns des autres. Corinthiens 12, 20, 25. Prions donc pour qu'Ismaël et Isaac cohabitent comme le loup et l'agneau. Que tous reconnaissent un Père universel et fondateur de toute fraternité. Prions pour que Moïse retourne en Égypte où il est accueilli comme Joseph en nourricier et en libérateur. Plus d'idoles, plus d'esclaves, on peut voyager d'un pays à l'autre. Les frontières demeurent, car nécessaires, pour marquer la distinction des personnes. Mais ce sont des frontières ouvertes. Ne peut-on pas transposer en songeant à tant de drames et de guerres, hier comme aujourd'hui, qui auront enfin cessé, parce que tous frères et tous sauvés. Une autoroute ira de Bagdad au Caire, en passant par Jérusalem, avec des échanges politiques, économiques et culturels. Un TGV direct aérien reliera Rome à Jérusalem pour rejoindre Babylone dans tous les endroits de l'univers où se trouve le monde païen. Rome, Jérusalem et Riyad se mettront d'accord pour redistribuer cette lumière, ces dons de Dieu, ces fruits de la terre promise à tous les hommes qui ont faim et soif, à tous les hommes qui sont nus et sans abri, qui sont malades ou en prison. Jérusalem ne sera plus traitée d'infidèle, car elle se sera convertie. Tous savent en effet que d'ici 40 jours, c'est-à-dire un peu de temps encore, tout sera bouleversé, car toutes les civilisations sont mortelles. Rome ne sera plus traitée de prostituée, car elle deviendra vraiment ce qu'elle dit et ce qu'elle est, l'épouse sans tache et immaculée du Fils bien-aimé. Même Riyad verra la Vierge Marie venir bénir ses fils en son Fils bien-aimé et la première cathédrale, Notre-Dame de Riyad, sera érigée de cette terre. Alors, qui va se convertir le premier, se tourner vers Dieu d'abord, vers l'unique et ensuite vers les autres, vers tous les autres? Le jeu est ouvert, la compétition est ouverte. Eh bien, qui va se convertir radicalement? C'est moi, chacun de nous. Car il existe une seule personne au monde sur laquelle j'ai une prise directe. C'est moi. Je respecte les autres et les laisse face à leurs responsabilités, mais je supplie Dieu de me donner son cœur, son regard, pour que je coïncide avec son projet sur le monde, celui d'un salut universel. Je ne puis faire davantage, car impossible de convertir les autres sans leur consentement. Heureusement d'ailleurs, mon impuissance dans ce domaine est totale, comme celle de Dieu, qui est, dans son amour infini, respecte la liberté de ses fils. Cette conversion à Dieu, dans la mesure où elle est radicale, immédiate, nous conduit à la fin du temps. Je veux dire à sa finalité, à la coïncidence parfaite avec Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint. La date de la fin collective du monde nous échappe, celle de notre mort également. Mais il dépend de nous de bien finir l'instant présent. le seul instant qui nous soit donné pour aimer, servir, pour connaître Dieu dans les hommes et pour connaître les hommes en Dieu. C'est dans ce sens que chacun de nous peut dire « Aujourd'hui, la plénitude des païens est entrée dans mon cœur. Ils sont sauvés pour moi. Ils sont sauvés pour moi comme pour Dieu, indépendamment de la réponse qui revient à chaque personne. Et désormais alors, dans mon cœur converti, c'est-à-dire tourné avec amour vers tous les hommes, sans exception, je mesure comme Dieu les enveloppe de sa tendresse. Et les souillures des peuples sont effacées, les vengeances sont surmontées. Et si nous sommes de plus en plus nombreux à faire et à vouloir ce salut, alors la fin d'une mise à l'écart de tel ou tel peuple sera la réconciliation du monde, la réintégration de tous dans la tendresse de Dieu, un passage de la mort à la vie, une véritable résurrection pour David, pour Christian et pour Mohammed. Le Messie est tout proche. Saint Jean, dans son Apocalypse, à côté d'images terribles, contemple ce monde renouvelé. 144 000 de toutes les tribus d'Israël, non pas au sens restrictif, comme l'interprètent les témoins de Jéhovah. Il s'agit plutôt de 12 fois 12, 144. Le carré de 12 multiplié par 1000, le chiffre de l'extension indéfinie. Je cite Apocalypse 6, 9, 12. Après cela, je vis, et voici une foule nombreuse que nul ne pouvait compter, de toutes les nations et de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Nous désirons alors, avec audace, que cette foule nombreuse désigne un chiffre objectif. Mais n'allons pas plus loin. Pour le salut, l'élection se fait au suffrage universel. Mes amis libanais, nous avons tous reçu un bulletin de vote dès notre conception. La grâce de l'existence, selon la belle expression des constitutions apostoliques. L'essentiel, l'essence ciel, est de participer. Même si nous mettons au scrutin un bulletin blanc et nul, Dieu qui ressuscite les morts est capable de mettre son 1 devant notre 0 pour lui donner une valeur infinie. Par contre, Dieu ne peut plus rien faire en cas d'abstention volontaire. C'est pourquoi, au dernier de tous les instants de notre vie terrestre, car chaque instant est toujours le premier et le dernier dans un sens absolu, au moment de notre mort, il faudra choisir entre le tout et le rien, entre tous ou personne, alors nous nous fixerons dans l'aujourd'hui de notre éternité. Bonne semaine. Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.